Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue sur RLP 102.3, une nouvelle émission ce soir dans Famille, justice, enfance. Un direct, encore un direct depuis nos studios ce soir avec... Alors, il a fait buzzer les réseaux sociaux depuis 2 semaines. Il est expert auprès de la cour d'appel de Versailles. Il est psychiatre, pédopsychiatre, médecin légiste. Il est président du conseil scientifique DISCO. On en parlera un petit peu après. Des apostrophes, hein, c'est un peu moins festif. C'est le docteur Jean-Marc Ben-Kemoun. Docteur, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Je suis très très content parce que en 6 ans ou 7 ans, c'est la deuxième fois que nous avons un expert judiciaire qui vient nous parler. Vous avez eu des prises de position qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Vous parliez notamment des problèmes, des informations préoccupantes qui engendraient souvent des placements. Vous êtes intervenu aussi dans le cadre du traitement de l'inceste. Vous insistez beaucoup, vous formez les gens à recueillir la parole de l'enfant parce que vous dites qu'il y a, et nous sommes tout à fait d'accord, un travail à faire et une professionnalisation à faire dans le recueil de l'information. Mais docteur Jean-Marc Ben-Kemoun, en fait, médecin, psychiatre, ça fait plus de 12 ans. Comment ensuite on devient un expert au tribunal, enfin, déjà, expliquez-nous, quel était votre parcours? Qu'est-ce qui vous a mené à faire ça aujourd'hui?
Moi, j'ai été élevé d'un service de psychiatrie expert.
D'accord.
Alors, donc, tout naturellement, on était confronté aux expertises de nos professeurs et de nos maîtres. À l'époque, on les appelait nos maîtres. Et tout naturellement, j'ai versé dans l'expertise. De toute façon, je pense que le psychiatre, il est toujours, et le pédopsychiatre, il est toujours aux confins du médico-légal. Quand vous voyez un patient, on se pose la question de la dangerosité pour lui-même ou pour les autres, on se pose la question de l'hospitalisation, on se pose la question des traitements qu'on peut donner, de leurs effets secondaires, etc., etc. Donc, c'est des questions qu'on se pose normalement en permanence quand on est psychiatre. Après, à mon époque, pour être expert, il fallait 10 ans de pratique dans le domaine dans lequel on demandait à être expert. Et puis, il fallait être porté par nos pairs. C'est-à-dire qu'il fallait que nos pairs disent qu'effectivement, on travaillait suffisamment bien. Dans tous les cas, on avait une connaissance suffisante pour pouvoir apporter des réponses à l'autorité judiciaire.
Donc, et après, de l'expérience et une reconnaissance collective.
Ouais. Et après, il fallait se former d'un côté à l'expertise et de l'autre côté, au droit pénal, civil, etc. Enfin, ni avocat ni juriste. En tous les cas, avoir les connaissances suffisantes pour savoir où on se situe, etc., etc. Je me souviens même que dans ces formations, on visitait des prisons, et notamment des cellules, parce que ça paraissait important à nos formateurs de se rendre compte de ce que pouvaient vivre les gens quand ils allaient en prison, etc., etc.
C'était en quelle année, ça?
Pense d'être 90.
D'accord, donc il y a une trentaine d'années.
Ouais. Ouais.
Un peu plus d'une trentaine d'années. Donc vous avez 30, 35 ans, voire 40 ans de plus. Donc vous avez 50 ans de pratique. Vous avez au moins 50 ans de pratique, 30 ans d'expertise. Alors première question. Expert aujourd'hui, c'est bien. Vous dire ici, on n'a pas forcément une vue très renseignée sur ça. On entend certaines choses. On entend que l'État est mauvais payeur. On entend que les psychiatres sont les mieux payés de tous les experts. On voit des choses qui mettent du temps à se mettre en œuvre dans des situations qui sont un petit peu urgentes. On a beaucoup de frustration de l'extérieur, mais on ne comprend pas comment ça se passe de l'intérieur, puis on a du mal à demander. Concrètement, c'est bien de travailler pour l'État?
Moi, je ne travaille pas pour l'État.
Parce que vous êtes expert, vous travaillez pour les tribunaux.
Non, je suis auxiliaire de justice. Donc, ça veut dire que les officiers de police judiciaire, le procureur ou les magistrats me demandent un avis technique parce qu'ils considèrent que j'ai une formation suffisante pour donner un avis technique dans le cadre de mon métier.
D'accord.
Donc moi je travaille pas pour l'État, je donne un avis technique à la justice, mais je travaille surtout pour les personnes que je reçois.
D'accord. Mais vous êtes indépendant, vous facturez quand vous allez pour l'État.
De toute façon, nous les expertises psychiatriques pénales, ce qui est la majorité de mon travail. Hein, moi j'interviens beaucoup pendant les gardes à vue ou en tous les cas dans l'immédiateté. Les expertises pénales sont tarifées. Ça veut dire que c'est temps. Voilà, vous pouvez passer un quart d'heure ou 10 heures, c'est le même prix.
D'accord, c'est combien actuellement?
Ça tourne autour de 500 euros.
D'accord.
Et expertise.
En fait, la question qui revient derrière, c'est lorsqu'on est un docteur compétent, quand on voit la désertification médicale et autres, qu'est-ce qu'on très clairement, c'est pas pour l'argent qu'on va travailler pour les tribunaux, parce que c'est un non-sens.
Alors,
clairement, c'est un non-sens.
Alors, ça dépend, parce que dans les expertises civiles. C'est-à-dire quand vous êtes nommé par un juge civil, et notamment le droit corporel,
etc.
Voilà, là, vous pouvez demander des honoraires selon un devis.
D'accord.
Et donc là, bah, vous pouvez demander un peu ce que vous voulez. Après, c'est le magistrat accepte ou pas. Mais oui, je pense que il y a des experts qui gagnent bien leur vie. Quand on travaille au pénal, c'est pareil pour les avocats, c'est pareil les avocats pénalistes. En général, non, on ne gagne pas bien.
D'accord. Alors, quelle est la motivation d'un spécialiste reconnu à aller travailler pour les tribunaux si très clairement il gagne beaucoup moins d'argent en le faisant et que la population a besoin de lui ailleurs? C'est quel type de profil qu'on retrouve? Les débutants, les gens qui restent longtemps, pourquoi ils y sont?
La population a besoin de moi ailleurs, a besoin de moi là aussi.
Bien sûr.
Ailleurs, je l'ai fait pendant 35 ans. J'ai arrêté parce que j'ai co-monté l'unité médico-judiciaire de Versailles, puis après l'ancêtre des UAPED à Versailles, et que j'avais plus le temps de faire de suivi. Mais quand j'ai voulu reprendre un suivi, là, c'est le chemin qu'il faut suivre pour reprendre un suivi qui a bloqué. C'est-à-dire que moi, il y a quelques temps, je me suis dit, maintenant j'ai un peu le temps, je fais des expertises, je reprendrai bien le suivi de certaines personnes. On m'a répondu, il faut que tu passes devant une commission, il faut que tu fasses un stage. Le temps que tu fasses tout ça, tu ne peux pas pratiquer la médecine.
Ah bon?
Alors,
ouais. Je pensais que c'était à vie. Je pensais que le diplôme était à vie. Je ne savais pas parce que vous arrêtiez de consulter.
Le diplôme est...
D'accord. Ouais. Il est soumis à la continuation de l'exercice. D'accord. OK.
Ouais. Alors, si on m'avait dit tu peux quand même continuer tes expertises, je continuais à gagner un peu ma vie. Et si on me dit t'arrêtes l'exercice de la médecine, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas. Donc, du coup, j'ai arrêté mon idée de pouvoir. Mais moi, je pense qu'on est dans. Vous savez, l'expertise, elle a souvent, je pense qu'elle a un rôle thérapeutique. Souvent, c'est la première rencontre avec un psychiatre ou un psychologue. Souvent, c'est cette rencontre qui peut déterminer que les gens s'orientent vers un suivi, alors qu'ils pouvaient être réticents, etc. Parce qu'on nous pose des questions sur les traitements, que ce soit pour les présumés auteurs comme pour les plaignants. Et donc, il y a quand même un impact thérapeutique. Et la façon dont vous vous comportez, ça a aussi un impact thérapeutique de voir un psychiatre ou un psychologue. Alors, on dit aux gens, moi, je vous ai vu en expertise, je peux pas assurer le suivi si jamais ils vous le demandent, c'est interdit, c'est le code de déontologie. Et dans l'autre sens aussi, vous avez aidé quelqu'un dans le cadre d'un suivi thérapeutique, vous pouvez pas le voir en expertise, c'est le code de déontologie.
Mais vous pouvez écrire un rapport ou une écriture sur un de vos patients qui sera ensuite communiqué au tribunal si
besoin. Vous pouvez l'écrire à sa demande en lui remettant à lui.
À lui, tout à fait. D'accord. Je veux en venir, c'est que nous, concrètement, dans l'étude qu'on a de cet environnement judiciaire et autres, on constate clairement qu'il n'y a pas forcément tout le temps une très grande performance. C'est pour ça qu'on est content d'avoir des gens qui ont un certain niveau des fois qui nous parlent. Et notamment, il y a un biais, on a l'impression que dès qu'on divorce, dès qu'on a quelque chose, on est face à des gens qui sont habitués à avoir des criminels, des personnes horribles, qui nous prennent beaucoup, beaucoup de haut. Et dès qu'on fait des expertises indépendantes, on se fait beaucoup moins allumer par les experts du système. Alors, c'est un sentiment de se faire allumer ou c'est un effet pervers du système?
Moi, je pense que ça dépend, un, de la formation de l'expert et deux, du temps qu'il passer. Vous pouvez pas passer une heure par personne quand vous faites une expertise familiale. C'est très long. Moi, je pense aussi que quand on fait une expertise familiale, il faut être deux, un psychiatre et un psychologue. Mais bon, c'est pas encore tout à fait admis. Mais je crois pas après peut-être que moi je suis expert judiciaire. Donc je me comporte de la même façon dans les expertises non contradictoires, c'est-à-dire ce que les gens appellent en général les expertises privées, c'est-à-dire le patient qui me paye, que dans les expertises judiciaires. C'est-à-dire que j'aurais vu la personne en expertise judiciaire, j'aurais répondu sur elle la même chose.
D'accord. OK. Bon, c'était bien de vous regarder un petit peu ce que c'est que votre environnement, que façon vous travaillez, parce que les gens ne le savent pas forcément de l'extérieur. Mais moi, j'en tire à cette conclusion-là. Si vous faites cette chose-là, c'est que vous avez une espèce de motivation intérieure qui n'est pas uniquement pécuniaire. Donc, votre motivation, elle est autre. C'est-à-dire que, oui, c'est pour part... Enfin, quoi que si, vous, ils vous ont plus ou moins enfermé dedans, vous m'avez dit.
En tous les cas, là... Je ne pouvais pas arrêter ma pratique de la médecine pour faire des stages et pour passer devant une commission, etc. etc.
Okay.
Mais tant pis, vu qu'on manque de psychiatres et de pédopsychiatres, tant pis. Hein. Après, je conçois...
Ah, il y a un manque de professionnels, ça c'est évident. Ça, c'est, bien
après,
sûr.
je conçois qu'il y ait une évaluation. C'est-à-dire, je conçois de passer devant une commission, je conçois de faire un stage.
Vous êtes évalué régulièrement, là, en tant qu'expert ?
En tant qu'expert, tous les 5 ans.
D'accord.
On est renommé ou pas.
D'accord.
En fonction d'un dossier qu'on fournit. De comment on s'est formé pendant les 5 ans, de l'expérience qu'on a.
Et si quelqu'un n'est pas content, il peut aller au Conseil de l'Ordre, vous pouvez être critiqué.
Ah non, pour les expertises, si quelqu'un n'est pas content de l'expertise, alors en général, quand on n'est pas content de l'expertise, déjà, les codes prévoient le fait qu'on puisse demander une contre-expertise.
Oui.
Déjà, au moins ça, quoi.
Et puis on est censé pouvoir la constater dans les 20 jours, mais vu qu'il nous la donne toujours après 20 jours, bon.
Oui, enfin bon, quand même, la contre-expertise, c'est quand même des choses qu'on voit fréquemment.
D'accord.
Après, même au niveau de la garde à vue. Après, oui, les gens peuvent aller devant le Conseil de l'Ordre, peuvent aller devant la juridiction qui nous nomme, hein, en disant qu'on n'a pas respecté la trame de l'expertise, qu'on n'a pas été suffisamment courtois, qu'on n'a pas fait les choses en état, etc. Il y a des règles dans l'expertise.
Oui, mais tout à fait.
Et si on les respecte pas, oui, on peut être mis en cause.
Vous n'hésitez pas à vous contredire les uns les autres. Je veux dire, vous n'êtes pas influencé par ceux qui sont passés avant vous.
Il y a très peu. En fait, alors, les contradictions, elles sont rarement sur le diagnostic quand l'expertise est suffisamment argumentée. Les contradictions, elles vont être sur, en tous les cas au pénal, la quantité de responsabilité. Est-ce que telle ou telle maladie, par exemple, quand vous avez une pathologie psychotique, il y a certains experts qui vont dire il a une pathologie psychotique, donc on considère qu'il ne peut pas être responsable. D'autres, dont je fais partie, il peut avoir une pathologie psychotique, mais il peut commettre des actes qui ne sont pas en rapport avec cette pathologie, même si la pathologie peut entraîner des troubles cognitifs, etc. Et donc, demander plutôt une altération. Voilà. Donc, c'est plutôt sur ces choses-là, le potentiel de dangerosité, c'est hyper important. C'est rarement sur le diagnostic. Quand il y a une problématique diagnostique, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'expert qui a porté le diagnostic n'a pas fait de diagnostic différentiel. En plus, il y a il faut être au sommet de son art, c'est-à-dire que la justice nous demande, mais comme en médecine d'ailleurs, hein, d'être à jour dans nos connaissances. Et la médecine évolue très vite, et la psychiatrie a évolué beaucoup ces derniers temps. Et donc, oui, il y a souvent des personnes qui ne sont pas formées sur certaines compétences, notamment le psychotrauma. On sait qu'en France, il y a une problématique de formation sur le trauma complexe, sur la dissociation, etc. Et donc là, oui, il peut y avoir des discussions diagnostiques, mais c'est quand même plutôt rare.
Ok, 30 ans d'expertise, plus votre métier auparavant, ça fait quand même un bon regard sur la société, ça fait quand même aussi un bon regard sur l'environnement, je dirais pas de gestion des conflits, parce que c'est plutôt familial, mais sur le pénal, ce genre de choses et autres. Est-ce que ça a évolué en 30 ans ? Est-ce qu'aujourd'hui, votre pratique, est-ce que les gens qui passent devant vous sont les mêmes qu'il y a 30 ou 40 ?
C'est peut-être moi qui ai changé aussi. Je suis mieux formé, je pense plus compétent qu'il y a 30 ans. Alors moi, j'ai un parcours assez particulier parce que j'ai été réanimateur médical.
Donc
j'ai côtoyé la maladie grave, la mort,
ouais.
La réaction à la mort, etc. J'ai été médecin de sapeur-pompier, officier supérieur de sapeur-pompier assez longtemps. Et donc là, j'ai côtoyé bien avant les CUMP, etc. J'ai côtoyé les catastrophes collectives, les attentats. Y compris dans des opérations extérieures, hein, sur des scènes internationales. Et donc je suis diplômé en médecine de catastrophe. Voilà, donc j'ai quand même un parcours qui m'a permis de rencontrer l'humain dans beaucoup de circonstances et de savoir ce que l'humain est capable de faire dans ces circonstances-là.
Il y a quand même une chose qui a dû évoluer, parce que dans votre intervention, vous disiez que vous faisiez des informations préoccupantes, que parfois on vous reprochait des informations préoccupantes. Moi, ce qui m'a le plus affolé, c'est que vous disiez que ces informations préoccupantes, ne pas confondre une assimilation de vocabulaire, mais ces signalements que vous effectuiez malheureusement entraînaient en grande majorité des placements, voire qu'il y avait une connaissance parmi les jeunes et les jeunes enfants de la possibilité de ce placement, qui est quelque chose qui n'existait pas, moi, quand j'étais jeune. Hein, on ne se parlait pas entre nous, en en disant « Ah, et si tu vas dire à la police ou au monsieur qu'on t'a fait du mal, tu perds tes parents. » Nous, on se le disait pas dans la cour d'école, on n'en parlait pas de ça entre nous. Hein. Donc forcément, il s'est passé quelque chose et la société a évolué sur ça. Autrement, on n'en avait pas parlé il y a 3 semaines.
Alors, d'abord, nous, à notre époque, on ne parlait pas de tout ça. Donc déjà, dans la cour de récréation, on ne parlait pas de ça. Non, on parlait pas de tout ça.
Oui, enfin, lorsqu'il y en avait un dans un coin qui était en train de pleurer, qui bougeait plus parce qu'il avait des bleus sur le visage, on le voyait, vous savez. J'ai aussi l'impression que certaines choses se passaient peut-être moins qu'aujourd'hui. Parce que...
Je sais pas, mais en tous les cas, on parlait pas de ça. Et quand on en parlait, c'est effectivement parce qu'il y avait des choses flagrantes, enfin bon, etc. Mais en général, on n'en parlait pas. Là, maintenant, il y a quand même Internet. Les enfants, ils ont le portable, ils ont les réseaux sociaux, ils sont ultra informés, même si c'est des informations qui peuvent être complètement tronquées ou des fausses informations. Enfin, ils sont quand même beaucoup plus connectés que ce qu'on était.
Après, il y a 450 000 enfants placés actuellement. C'est beaucoup plus qu'il y a 20 ans.
Oui, je pensais que c'était 300 000, mais peut-être que votre chiffre est meilleur que le mien.
Disons que ça progresse. Voilà, il y en a plus qu'avant. Voilà, ça progresse.
Alors, pour compléter mon propos, donc les enfants se parlent entre eux. La police, il lui arrive de venir dans les écoles, hein, police et gendarmerie. Oui. Moi, j'ai jamais vu police ou de gendarmerie. Il est dans mon école hein, quand j'étais petit, même au lycée, même voilà.
De manière très violente parfois d'ailleurs, hein, et pas que pour les signalements, on peut avoir des interventions policières.
Je ne sais pas s'ils interviennent de manière très violente, mais je pense.
Pour un enfant, voir des gendarmes rentrer dans une cour d'école, prendre un enfant et repartir avec, au niveau de la classe, visuellement c'est violent. Voilà,
je comprends que ça puisse être ressenti comme violent. Mais je rappelle que les gendarmes et les policiers, ils interviennent aussi dans les écoles pour expliquer certaines choses.
Bien sûr.
Donc les gens.
Et puis ils font ce qu'on leur demande, oui, bien sûr.
Voilà, les gens connaissent les gendarmes et les policiers. Mais je comprends, de la même façon que de débarquer à 6 h du matin chez quelqu'un, enfin bon, etc., je comprends qu'on puisse le vivre comme violent, même si eux ne le sont pas. C'est-à-dire que c'est le. Voilà. Et donc, effectivement, les enfants se parlent, et les enfants, surtout les meilleurs amis, etc., et où est passée Bérénice? Eh bien, écoute, Bérénice, elle a dit ça, et du coup, elle est placée. Ils se disent ça, voilà. Donc, il est vrai que moi, j'ai eu certains enfants qui m'ont dit « si je te le dis, tu ne l'écris pas ».
Et vous confirmez donc le fait que de signaler un problème potentiel sur un enfant, ça entraîne une très forte probabilité de placement de l'enfant?
En tous les cas, à partir du moment où on n'a pas les bons outils pour faire un diagnostic suffisant, ouais, il est pas rare que ça entraîne le placement de l'enfant.
D'accord.
Quand vous parliez des séparations, je vous rappelle que 90% des séparations se passent bien. Ça veut dire que les gens restent en équilibre, y compris les enfants.
Ah, on leur conseille d'ailleurs, c'est beaucoup mieux. Hein.
C'est mieux quand ça se passe bien.
C'est clair et net, bien sûr.
Donc 90% donc on ne les voit pas, ces gens-là. Et ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de conflit de loyauté, etc. On entend partout conflit de loyauté, mais le conflit de loyauté, c'est normal. Le conflit de loyauté, c'est un conflit interne de quand je suis chez papa, je ne suis pas chez maman, et quand je suis chez maman, je ne suis pas chez papa. Ça dure un petit moment, puis ça rentre dans. Nous, ce qu'on voit, c'est des conflits externes. Ça veut dire que c'est des conflits qui ont été apportés par l'extérieur. Et c'est là qu'on parle, effectivement, d'instrumentalisation, etc., etc. Mais on ne voit que 10% des séparations.
Ouais. 21 minutes d'émission, il nous reste 8 ou 9. Vous abordez un point qui est extrêmement important. Je voulais absolument parler. Vous avez dit le mot, là. D'ailleurs, j'encourage les gens à aller voir la version YouTube. En début, on parle un peu d'aliénation parentale. Une petite question que j'avais marquée. La parole de l'enfant est nécessaire, effectivement, mais est-elle suffisante? Est-ce qu'on peut se baser que sur une parole d'enfant dans un cas de dénonciation lorsqu'il y a un conflit parental, un environnement particulier, des mauvaises fréquentations. Je vous dis ça, dans les réseaux de soutien, on voit arriver des dossiers où très clairement, l'enfant ne peut pas inventer certaines choses. Ça, c'est clair et net, il y a des choses qui ne s'inventent pas. Mais ça marche dans les deux sens. Il y a aussi l'enfant qui peut dire des choses qui, très clairement, ont peu de prise sur la réalité. Et comment on fait pour différencier un enfant?
C'est notre travail.
Mais oui, tout à fait. Alors comment on se forme à ça? Parce que l'appréhension de la réalité de l'enfant, et encore on dit un enfant, mais il y a plusieurs enfants, il y a plusieurs stades de développement, il y a plusieurs âges, il y a plusieurs contextualités.
D'abord, il faut connaître l'enfant et son développement.
Oui.
À l'heure actuelle, la majorité des personnes qui font des expertises d'enfants sont des experts d'adultes. Ça pose problème.
Oui,
il faut connaître le développement de l'enfant.
Un enfant de 9 ans n'est pas un adulte.
Il faut connaître la pathologie psychologie des enfants. Il faut connaître les symptômes que l'enfant peut présenter en cas de violence et quelle violence, etc. Et après, il faut recueillir sa parole de façon non suggestive. Non suggestive, ça veut dire que je n'apporte rien à l'enfant.
Voilà. Et la façon dont on le fait pas pleurer durant 30 minutes pour lui arracher un oui.
Exactement. Voilà. Parce que la façon dont je vais l'interviewer, je vais pouvoir repérer aussi des signes d'instrumentalisation. Et donc, c'est important. Voilà. Parce que l'enfant, il est capable de donner ses sources. Il faut qu'il ait confiance en nous. Donc, il y a tout un travail d'alliance, de confiance. Ouais. Il faut se présenter déjà. Moi, je suis vieux à représenter. Vous voyez, les petits, c'est difficile voilà, de voir un vieux. En plus, c'est la première fois. Et puis, je n'ai pas demandé à venir là.
Et on ne parle pas aux inconnus et tout ça. Voilà,
voilà, exactement. Donc, c'est tout un travail d'alliance et de confiance qui se fait tranquillement, etc. Et puis après, on interviewe de façon non suggestive. Et je vous... Voilà. La recherche internationale nous dit que quand l'enfant parle spontanément, donc c'est pour ça que là aussi, c'est très important de savoir à qui il a parlé, comment il a parlé, qu'est-ce que lui ont dit les gens à qui il a parlé, etc. Quand un enfant parle spontanément, dans 95%, 94% des cas concernant les agressions sexuelles, ce qu'il dit s'inscrit dans la réalité. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des enfants qui sont instrumentalisés. Alors, l'enfant mentir, pour mentir, déjà, il faut avoir un process intellectuel. Mentir, à 3 ans, on ne ment pas. Quoi.
C'est ce que j'allais dire. À 3-4 ans, le mensonge n'a pas la même signification qu'à 25 ou 30. Ce n'est pas la même chose.
Ben, il ne ment pas. Alors, éventuellement, il se protège.
Oui, il joue sa partition, il veut survivre. C'est normal, ça, on peut comprendre.
Ben voilà, il rentre de l'école, il a une mauvaise note, il a une claque, on lui demande « t'as une mauvaise note ?» Il va dire non.
Il y a les deux parents qui s'engueulent, ils discutent partout, forcément,
Le mensonge, il a un intérêt. Quel intérêt y a-t-il à mentir ? Quand l'enfant est instrumentalisé, il a souvent pas conscience qu'il l'est. Donc, il ment pas. Et c'est à nous de repérer cette instrumentalisation. L'instrumentalisation fait partie des hypothèses systématiques. La recherche internationale nous dit qu'on voit à peu près 10% des séparations. Dans ces 10% des séparations, il y a 80% de violences conjugales. Dans ces 80% de violences conjugales, il y a 80% de violences de l'homme sur la femme. Quand l'enfant est instrumentalisé, la recherche nous dit que l'instrumentalisation vient la plupart du temps du parent agresseur. Vous voyez, donc ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on entend, de tout, etc., etc.
Oui, enfin, nous, dans l'opposition, on l'entend énormément et on a tendance à un petit peu oublier que c'est pas parce qu'on se fait traiter d'agresseur qu'on l'est forcément. Parfois, c'est aussi la personne qui accuse qui agresse.
Alors, quand je dis parent agresseur,
oui, faut que ce soit
c'est qu'il y a des raisons de le penser. Vous savez, quand moi, je rencontre des plaignants et je rencontre des auteurs.
Ah oui, oui, non, mais j'ai passé des dossiers, il y a 25 traces de morsures, c'est passé quelque
des
chose.
Auteurs, des auteurs,
oui,
présumés.
Sûr. Oui, bien sûr.
Les auteurs, ils ont des traits de caractère, ils ont des personnalités, c'est ça qu'on va chercher. Si c'est pour dire qu'il n'est pas fou, ça ne sert à rien de faire une expertise. Moi, les expertises que je fais, c'est des expertises psychocriminologiques. C'est-à-dire que je vais aller rechercher est-ce que c'est quelqu'un qui a des capacités à mettre en place un contrôle coercitif.
Alors là, attention, là on rentre dans un domaine... Désolé, je vous interromps parce qu'en même temps, on a un temps qui est un petit peu réduit. En tant qu'expatrié, chef d'entreprise, qui a vécu sur plusieurs continents, je peux vous dire que lorsqu'on revient en France, une personnalité qui s'affirme de type un peu dominante, elle est massacrée par le système judiciaire parce qu'on est assimilé à une brute potentielle, on est assimilé à quelqu'un qui fait de l'emprise potentielle et autres. Et en fait, s'exprimer ici de la même manière qu'on s'exprimerait lorsqu'on a vécu en Irlande, aux USA ou dans certains pays, n'est pas une bonne idée du tout. Parce que justement, ce que vous venez de dire, le profilage est culturel.
Alors, il y a un profilage culturel. À nous d'être un peu formés au transculturalisme. Si on n'en est pas capable, ben on demande d'avoir un co-expert qui a cette formation. Après, si vous regardez les classifications internationales, que ce soit des classifications américaines, anglaise, allemande, marocaine, etc., c'est les mêmes.
Oui, non mais donc, un fou furieux,
moi,
un fou
furieux, pas.
D'accord, oui, d'accord. Oui.
Moi, je ne vous parle pas, non, même dans les personnalités.
D'accord.
Je ne vous parle pas de quelqu'un de dominant, des chefs d'entreprise, moi j'en vois plein, etc., etc., même des non-chefs d'entreprise qui sont dominants, ce n'est pas parce qu'on a une personnalité charismatique, enfin bon, etc., qu'on est forcément violent. On va aller rechercher d'autres choses. Le charisme, ça aide, hein.
Oui.
Mais on va aller rechercher d'autres choses. Et c'est important, c'est pour ça que moi je reste longtemps quand je vois les gens en expertise, parce que je vais aller rechercher, c'est dans le détail. que le diable se cache.
Et c'est là que vous intervenez, vous avez une posture qui est extrêmement importante, parce que vous formez les gens à écouter les enfants de manière internationale, mais expliquez que vous alliez aussi aider le Maroc. Il y a une association qui est passée sur notre antenne il y a 3 ou 4 semaines, vous expliquez les problèmes qu'il y a au Maroc actuellement, vous essayez de refaire une réforme de leur côté
mondial. Oui,
tout à fait.
Tous les pays francophones.
Donc il faut former à recevoir la parole de l'enfant et à voir les signes extérieurs secondaires qui, en fait, révèlent un trauma.
Ouais. Alors, regardez comment ça se passe. Quand,
vous avez une minute.
on reçoit la parole de l'enfant et la parole de l'adulte de la même façon. Mm-hmm. Mais quand l'enfant parle, bon, on va aller chercher tout ce dont on a parlé. Mais quand vous avez un témoignage de la famille, témoignage, qui va aller chercher que cette personne-là est instrumentalisée ou pas ? Vous voyez comment on est à deux vitesses, en fait. Donc, je pense vraiment que les gens qui reçoivent la parole de quelqu'un doivent être formés à la recevoir de façon non suggestive.
Ok. Docteur Benkemoun, on vous trouve comment si on veut vous parler ? Je crois qu'on peut quand même vous parler, même si vous ne consultez plus, on peut quand même discuter avec vous. Comment on vous joint ?
Eh ben écoutez, sur mon tampon, vous avez le numéro de téléphone et mon mail.
D'accord.
Mais après, je sais qu'une fois qu'on passe à la télé, il y a des gens qui demandent des expertises, etc. etc. Mais je suis tout seul dans mon cabinet, donc
je ne
peux pas répondre à la demande, d'autant que je fais beaucoup. Je travaille beaucoup au pénal et en garde à vue.
Ne quittez pas, je lance le jingle de fin et on continue après sur YouTube. À tout le monde, à la semaine prochaine, au revoir.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.